Je vous invite à prendre vos Bibles dans 1 Jean 2, versets 15 et 17. 1 Jean 2, versets 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen.
Nous avons interrogé 3 personnes passées par l'Église adventiste, 3 personnes représentatives de notre communauté. La première, malheureusement, a cru en Dieu il fut un temps. Elle me raconte. Ça faisait longtemps que je ne me sentais pas en phase avec la vie d'adventiste. J'ai commencé à ne plus aller à l'église quand j'ai eu cours le samedi. Puis petit à petit, la vie a pris son cours. Depuis que je ne suis plus à l'église, je suis avec des amis le samedi, ou en train de bosser, ou en fin de soirée, enfin la même chose que les autres jours de la semaine. Désormais, les fois où je vais à l'église peuvent se compter sur les doigts d'une main. Je ne me vois plus revenir à l'église, je ne me sens plus en accord avec ce qui est dit, et je ne ressens pas spécialement de joie lors du culte ou de l'étude de la Bible. De plus, à nos âges, on construit des bases de vie qui vont évoluer au fil du temps, et mes bases ne sont pas en accord avec la Bible. Car depuis mon plus jeune âge, j'ai été enfermée dans une bulle très prude. On m'a toujours appris à être bien sage, serviable, souriant. Et quand j'ai découvert à l'extérieur, j'ai eu l'impression que l'on m'avait menti. Car beaucoup de choses sont exagérées. Ce contexte sage pousse à mettre des choses dans des cases, comme ça, sans explication. J'avoue que parfois ça me manque, mais je repense plutôt à lorsqu'on avait 8 ans, au moment passé au tison, les repas. Mais maintenant, on est aujourd'hui, et j'ai vécu des situations compliquées, sans pouvoir m'en sortir, mais je n'épiloguerai pas dessus. Il m'arrive de prier, notamment dans les moments difficiles. La chose que je pourrais reprocher à l'Église, c'est qu'il y ait une élite. Selon moi, l'Église ne s'occupe pas assez de sa jeunesse. Notre deuxième personne, elle, dit avoir un pied entre les deux, entre l'Église et le monde. Mon absence à l'Église s'est renforcée quand j'ai commencé à aller en cours loin de chez moi. Après un déménagement, on a changé d'église, du coup j'ai profité des samedis matins pour dormir. Généralement, je me réveille à l'heure à laquelle le culte se termine, je mange avec mes parents qui, eux, rentrent de l'église, puis je vois des amis le reste de la journée. Ne plus aller à l'église, je ne pense pas que ce soit une décision que l'on prend. Je pense qu'on se laisse entraîner sans réfléchir, et finalement, c'est la facilité. Je fréquente l'église environ tous les 2 mois avec mes parents. Je prie avec eux à la maison, tous les soirs, avant de manger et avant d'aller dormir. Tu sais, Rachel, je sais que je n'aurai aucun mal à revenir parce que j'ai reçu cette éducation-là. C'est une question de mode de vie. Je pense que je suis à un âge où je manque de maturité concernant l'importance du sabbat. Je sais que ça ne touche en rien à ma foi. Ça ne m'empêche pas non plus de payer ma dîme. Je n'ai jamais douté de Dieu. Et encore aujourd'hui, jamais je ne me suis demandé si vraiment il existait. Car pour moi, c'est évident que oui. Je ne me suis pas éloignée de ma foi, je me suis plutôt éloignée de la pratique de ma foi. Mais dans tous les moments forts de ma vie, j'ai le souvenir d'avoir toujours prié pour demander de l'aide à Dieu ou le remercier. Les moments à l'église me manquent de temps en temps, mais pas toujours. Ce qui me manque, ce sont tous les moments que l'on partageait l'après-midi, entre Tison et Explo, les camps et toutes les rencontres qu'on y faisait. Parfois, on était des milliers de jeunes à se rencontrer, et quand on se mettait tous à chanter, ça, c'était magique. Sans hésitation, mon meilleur souvenir restera un camp mémorable. Je n'en veux pas à l'Église et même aux membres. En soi, je ne peux rien leur reprocher, parce que comme dans toutes les communautés, on apprend à vivre ensemble, et parfois il y a des hauts et des bas. Au contraire, je rencontre tous les jours des gens qui n'ont pas de foi, et je remercie l'Église adventiste de m'avoir donné un cadre dans mon éducation, des valeurs et une connaissance que je suis fière d'avoir. La troisième personne, et dernière, adventiste, s'est éloignée de l'église, puis est revenue. On pourrait la résumer à cette phrase « Merci Seigneur de toujours veiller sur tes enfants ». Elle raconte « Je me suis éloignée de l'église car elle ne répondait pas à mes attentes du moment. Mes envies ne collaient pas avec l'image de l'église. Le monde extérieur me tendait les bras. Ce qui m'y attirait, c'était les amis, les amusements. Et par amusement, j'entends boîte de nuit ». Cette mentalité non chrétienne a eu un impact sur ma mentalité. Même si au sein de mon foyer, nous faisions le culte le matin et la célébration du sabbat le vendredi soir, soir, mon esprit n'était pas conditionné par la méditation. J'allais quand même à l'église, mais je faisais de la figuration et je passais du temps avec un ami. À partir du moment où j'ai vécu seule, je restais chez moi et regardais la télé. Je me disais que ça ne tuait personne. Parfois, je dormais ou baladais en ville. À cette époque, il ne me manquait pas grand-chose, sauf plus d'argent pour plus m'amuser. Pourtant, je priais matin et soir pour que Dieu me protège. Au cours de cet éloignement, j'avais gardé une certaine hygiène de vie. Je ne fumais pas, je ne buvais pas. À chaque fois que je revenais à l'église, une sœur me demandait « Alors, c'est pour quand le baptême ?» Une question, un acte, qui rentrait par une oreille et ressortait par une autre. J'avais le cœur dur. J'étais beaucoup entourée de personnes de confession musulmane, donc, inévitablement, je me voyais changer de religion. Mais cela ne s'est jamais produit. Je me suis dit qu'il fallait apprendre les croyances que l'on m'avait inculquées dès mon plus jeune âge, bien que mes connaissances ne soient pas solides. Donc j'ai pris des études bibliques afin de mieux connaître mes croyances et d'être éclairée sur les questions de foi. Progressivement, je retrouvais un esprit ouvert à la foi. L'élément déclencheur a été la rencontre avec un frère de la communauté adventiste. On se voyait également en dehors de l'église. Je me suis rapidement intégrée à sa famille et au groupe de jeunes de l'église. Enfin, je redécouvrais un sentiment d'appartenance. Et chaque sabbat était devenu un moment attendu dans la semaine, car je savais que j'allais retrouver ma famille. Le comble dans tout ça, c'est que je faisais l'école du sabbat. Pas tous les jours, quand même, mais il faut reconnaître l'exploit. Plus j'étudiais, plus ma foi en Jésus grandissait, plus je redécouvrais le trésor de la parole de Dieu. Alors j'ai décidé de me baptiser. Ça, c'était la consécration. J'étais sûre de ma foi. Alors pourquoi attendre? Pourquoi encore perdre du temps? Enfin, j'étais passée du côté des vainqueurs. J'étais et je suis de ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur. Quelle grande émotion! Pendant tout cet éloignement, j'ai senti la main de Dieu car j'aurais pu tomber encore plus bas. À tous les jeunes qui ont quitté l'église ou qui envisagent de le faire, je vous comprends. Je suis passée par là. Vos habitudes quotidiennes, si elles sont mauvaises, vous enfonceront. Mon conseil à vous, jeunes de la communauté, c'est d'essayer de fraterniser au maximum avec les jeunes de votre église. Car vous avez la chance de pouvoir vous réunir et de partager des moments ludiques comme spirituels. Il est important aussi que la communauté soit proche de sa jeunesse et que le lien qu'il y a entre vous ne se résume pas à un bonjour le samedi matin. Et aux familles, n'abandonnez pas les moments de partage autour de la parole de Dieu avec vos enfants, en commençant par le plus jeune âge, car plus tard, ça servira, je vous assure.
Être adventiste dans le monde. C'est un sujet, comme vous avez vu par ces témoignages, qui nous touche vraiment tous les jours et chaque personne dans notre quotidien, en tant que nous jeunes et même vous en tant qu'adultes. Être chrétien dans le monde, mais qu'est-ce que le monde? Je vais vous parler de cette partie-là, de ce sujet, le monde. Le monde que nous sommes, le monde dans lequel nous vivons, le monde qui nous entoure, le monde qui nous attire, tant de définitions possibles à ce terme. La première définition du dictionnaire, on va parler un peu français, définit justement le monde comme étant l'univers, tout ce qui existe. Un terme très large, un très général, c'est pas très précis, on est d'accord. Le deuxième, c'est le milieu où vit l'homme. En gros, la Terre, notre planète, ça va. La troisième, en revanche, c'est le genre humain, l'humanité. En gros, ceux qui vivent sur Terre. Donc, pour faire simple, on peut suivre la définition comme ça. Le monde vit sur un monde dans un monde plus vaste. Voilà, tout simplement, hein, c'est assez logique. Donc, comme quoi, avec les définitions de la langue française, on peut faire plein de trucs. Bon, évidemment, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est la définition du monde dans la Bible, bien sûr. Et la Bible parle du monde différemment. Lors de la création, le terme employé, c'est toujours la terre, c'est jamais le monde. Hein, la terre, ce qui la compose. Le monde dans la Bible définit, par contre, les êtres humains, les gens qui vivent dessus. Le terme utilisé, je vais sortir le texte que nous entendons souvent, Jean 3,16, tout simplement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le monde sont tous les enfants de Dieu, toutes les personnes que nous sommes, toutes les personnes qui vivent sur cette terre. Enfin, nous pouvons dire que le monde, c'est surtout sur tous ses aspects, bons ou mauvais. On peut douter que c'est un plutôt mauvais, puisque Jésus est quand même dû venir pour nous sauver. Pourquoi? Parce que le monde est rempli de péchés, nous le savons tous. Mais être sauvé par Jésus, nous en avons besoin. Car le monde dans lequel nous vivons n'a rien à nous apporter, sinon la tentation, et la tentation, on pourrait bien s'en passer. La tentation du péché s'insinue en nous, comme, si je puis me permettre, une confiture dans les trous d'une tartine. Plus sérieusement, évidemment, c'est bien de cette quête que je voudrais vous parler aujourd'hui. Celle d'être dans le monde, mais sans y appartenir. Être dans le monde, mais avoir cette identité de chrétien. La tentation est une mise à l'épreuve. Elle se présente pour le croyant lorsqu'il se trouve dans une situation où il entend simultanément deux appels, l'un qui le pousse à transgresser la volonté de Dieu et l'autre à faire ce qu'il sait être la volonté de Dieu. Satan est surnommé aussi le tentateur. Le tentateur dans la Bible, le prince de ce monde, et c'est pas étonnant, on sait bien pourquoi. Il est dit que le monde lui appartient jusqu'à sa fin et c'est à nous de prouver que nous n'appartenons pas à ce monde. Que nous valons mieux que ça, que c'est Dieu qui guide nos pas, que c'est lui que nous voulons suivre, lui que nous aimons et qu'en tant que chrétiens nous sommes ses enfants. Qu'en tant que chrétiens nous voulons être des lumières pour ce monde et non pas appartenir et se faire entraîner par ce monde. Jean 17, pour ceux qui connaissent ce texte, est une prière de Jésus à son Père pour nous tous, chrétiens, personnes qui le suivons, personnes qui sommes ses enfants. Et cette demande est vraiment une prière qui, pour moi, je trouve, est rassurante. Car je sais que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte, nous avons toujours l'aide et l'appui de Dieu en n'importe quelle circonstance. Je vais vous lire les versets 12 à 21 pour clôturer. « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient eu en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. » Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je te prie donc de les ôter du monde, mais non pas de les ôter du monde, pardon, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
Qu'est-ce que je peux vous servir ?
Une bière.
Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre, moi ?
Allez, prends une bière, te fais pas remarquer.
C'est tout, tu n'as pas le droit de boire d'alcool, c'est bon pour toi.
Ce n'est qu'un verre, qu'est-ce que tu risques au pire ? Hein ?
Et pour vous ?
Une bière, ou plutôt un mojito.
Ne fais pas ça, tu risques d'y prendre goût.
Oh, un verre, de temps en temps, c'est pas être alcoolique, hein, t'inquiète.
Bon, t'as choisi ? Ouais,
je t'en prie.
Ne te
trompe
pas dans le groupe.
Ils vont se moquer de toi, dépêche.
Peu importe, sois forte.
Ce n'est qu'un verre, qu'est-ce que ça va changer ?
N'oublie pas que tu es un enfant de Dieu, tu
es intolérante !
Et pour vous, madame ?
Une limonade, s'il vous plaît.
Ah, mes frères et sœurs, combien de fois nous nous sommes retrouvés dans cette situation ? Hein ? Je peux vous le dire. Avec ce désir de franchir la ligne que notre conscience nous fixe. Toujours la tentation. Résister aux tentations. Résister. Ce mot me rappelle un peu une période un peu lointaine de guerre où une puissance dominante oppresse une minorité. Je ne vais pas vous apprendre, comme Guillaume l'a dit, que l'omniprésence du péché dans ce monde apporte à Satan une place dominante. Également appelé grand séducteur, le grand tentateur, il use de tous les stratagèmes pour nous faire tomber, pour nous tenter. À partir de ce constat, qu'est-ce qu'on fait ? On reste les bras croisés ? Comment résister à la tentation ? J'ai essayé de bosser un peu sur le sujet, je vais essayer de vous témoigner, vous retranscrire un peu le résultat de ma recherche. Mes amis, je vous le dis concrètement, à l'heure d'aujourd'hui, nous devons rentrer en résistance par rapport à ça. Car le monde dans lequel nous vivons, Guillaume l'a bien décrit, n'est pas un havre de paix pour nos âmes. Nos âmes sont en danger. On nous veut du mal, je vous le garantis. Je peux vous le dire qu'une action individuelle ou groupée ne peut rien y faire. Par nos propres moyens, nous ne pouvons rien y faire. Mais vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle, et je pense que tout le monde assemblé ici la connaît. Mais après, pour cela, il faut être convaincu de ces nouvelles. Cette nouvelle que je vais vous donner, c'est que face aux assauts de Satan, seule notre foi en Dieu peut nous préserver. Seule notre foi en Dieu peut nous préserver, mes frères et sœurs. Cette affirmation, je pense que beaucoup la prennent comme légère. C'est un peu une affirmation bateau qu'on entend régulièrement. Mais je suis convaincu que c'est la clé. Que c'est la clé qui peut nous permettre de nous préserver par rapport à ces assauts. Le fait de choisir Jésus comme sauveur et d'avancer avec lui quotidiennement, à ses côtés, est un rempart par rapport à ses attaques. Si nous marchons avec Dieu, il nous fournira des armes nécessaires à notre mission, comme la parole nous le dit dans Éphésiens 6, du verset 13 à 17. On voit la déclinaison de toutes les armes du chrétien, Seigneur. Au-delà des armes du chrétien, j'aimerais juste mettre en lumière, en fait, deux aspects de la foi protectrice en Dieu. Le premier aspect, en fait, c'est le fait de se laisser guider par la parole. Psaume 119, verset 105 nous dit, je pense que tout le monde le sait, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La Bible est un livre d'enseignement pour chaque situation de vie. Nous devrions l'étudier quotidiennement, humblement, afin que lorsque nous sommes confrontés aux attaques de Satan, nous laissions agir cette parole puissante, à l'instar de Jésus, suite à son jeûne dans le désert. Il n'a répondu aux attentes de Satan que par la parole. Suivons son exemple. La sœur White également met ce point en évidence dans le livre Jésus-Christ au chapitre 6. Lorsqu'elle nous dit, de même, les disciples de Christ, quand ils sont assaillis par le tentateur, devraient faire de la Bible leur défense. Le deuxième point que je voulais mettre en lumière, c'est le fait d'aimer Dieu. D'aimer Dieu dans le sens où nous ne souhaiterons pas faire souffrir la personne que nous aimons. Par exemple, je vais prendre un exemple. Tout comme un adolescent qui est tenté de braver un peu l'interdit de ses parents, mais à l'instant, il prend conscience que le fait de braver cet interdit peut causer le chagrin de ses parents. Et là, il ne le brave pas. Et je peux vous dire que c'est vraiment pas du flan ce que je vous dis, parce que je l'ai vécu. Il y a des choses qui vous arrivent, des décisions que vous pouvez prendre, mais quand vous pensez que les personnes qui vous aiment seront, comment dire, malheureux par rapport à ce choix, je peux vous dire que ça vous fait réfléchir à plusieurs fois. Et là, vous pesez vraiment le pour et le contre, et concrètement, vous partez dans le sens du bonheur de la personne qui vous aime. Prenons également conscience qu'à chaque fois que nous péchons suite aux assauts de Satan, notre Sauveur qui est dans les cieux est triste, très triste, malheureux. Nous le rendons malheureux par tout ce que nous faisons, par toutes les chutes que nous faisons. Prenons conscience. À chaque fois que nous sommes confrontés à cette tentation, essayons de toujours regarder à Christ, mes frères et sœurs, et de penser à son sacrifice sur la croix.
Bonjour.
Un ticket, s'il vous plaît.
C'est 2 euros, madame.
2 euros, d'accord. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je suis pressée,
désolé,
moi.
Je n'ai que 1,80 €, monsieur.
Non, désolé, madame, il me faut la pointe.
Mais elle ne pouvait pas prévoir.
Monsieur, je suis en retard.
Non, c'est 2 euros, madame.
Oh, c'est pas possible. Allez, allez, dépêche-toi, va chercher de l'argent, fais quelque chose.
Non,
mais c'est
désolé,
pas vrai.
Madame.
Vous savez pas que c'est pas la même situation de la chrétienne. On va faire un petit retour. On va repartir, ce sera mieux.
Bonjour monsieur, un ticket s'il vous plaît.
Bonjour, c'est 2 euros madame.
2 euros? Je n'ai que 1,80 € monsieur.
Ah, je suis désolée, il me faut la prendre.
J'ai 20 centimes pour vous.
C'est vrai? Ça vous dérange pas?
Non.
Merci beaucoup. Tenez, voilà.
Merci.
Franchement, merci, c'est très gentil de votre part.
Merci.
Vous savez, il n'y aurait pas beaucoup de personnes qui feraient la même chose que vous.
Oh, mais c'est pas un problème. De toute manière, j'applique les conseils de la Bible.
Franchement, merci beaucoup.
Merci. Vous connaissez la Bible?
Bah, non. Bon, bah...
Alors, à qui ça n'est jamais arrivé une situation comme celle-là? Vous êtes dans le bus, vous êtes pressé et quelqu'un est devant vous et arrive et finalement retarde le bus. Il y a une multitude de situations où nous pouvons nous énerver. Quand nous conduisons et qu'un conducteur passe devant nous. Quand nous ratons notre train à 30 secondes près. Ou quand vous, les enfants, les jeunes vous embêtent dans la cour de récréation. Et il y a encore plein d'autres situations. Comment réagissez-vous? Est-ce que vous faites comme moi dans la première partie de la scénette? Vous vous emportez, vous râlez parce que la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient pas, parce qu'on vous fait perdre votre temps? Ou bien vous acceptez la situation dans laquelle vous êtes et vous montrez le caractère de Jésus? Dans chaque situation dans laquelle nous nous trouvons, n'oublions pas que nous sommes la lumière du monde. Matthieu, dans son évangile au chapitre 5 et au verset 14 à 16, nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alors ces trois versets, beaucoup les connaissent par cœur. Tout d'abord parce qu'on doit les apprendre au JDA. Mais analysons-les ensemble. Comment s'allume une lampe, selon vous? On branche le câble dans la prise, le courant passe et on appuie sur l'interrupteur, l'ampoule s'allume. Il faut donc une connexion entre le câble de la lampe et le courant. Et nous, si nous sommes la lumière du monde, ne nous faut-il pas une connexion avec le Seigneur de la vie pour que nous puissions éclairer les personnes se trouvant autour de nous? Autisons, dans les quatre lois que nous devons apprendre, il y en a une qui a retenu mon attention pour ce matin. Le tison lit la Bible et prie chaque jour. Si nous voulons être les lumières de Dieu dans le monde, nous devons être proches de lui, connectés à lui grâce à la lecture de sa parole et grâce à la prière constante chaque jour de notre vie. Attendez, je reprends cette phrase parce qu'elle est essentielle. Si nous voulons être les lumières de Dieu dans le monde, nous devons être proches de lui, connectés à lui grâce à la lecture de sa parole et grâce à la prière constante chaque jour de notre vie. Nous pourrons ainsi éclairer le monde qui nous entoure de cette lumière venant de Jésus-Christ. Éclairer le monde de Jésus-Christ et de son amour pour nous, c'est agir pour les autres en s'oubliant soi-même. Tous les jours, il nous est possible de rendre service aux autres, aider une vieille dame à porter son sac de course, donner un peu d'argent à une personne démunie, aider quelqu'un qui s'est perdu, ou chez les jeunes, aider quelqu'un dans un exercice quand il n'a pas compris. Reprenons la parabole du bon samaritain ensemble. Et si vous voulez la trouver dans la Bible, elle se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, et à partir du verset 29. Dans cette parabole, nous trouvons trois hommes. Tout d'abord, un sacrificateur. C'est un homme qui travaille au temple, qui connaît la loi de Dieu et la loi de Moïse. Pour autant, est-ce qu'il aide la personne qui se trouve dans le besoin? Non. Ensuite, le deuxième homme se trouve être un lévite. Lui aussi travaille au temple. Il connaît aussi les lois. Mais lui aussi, est-ce qu'il aide la personne qui est dans le besoin? Non plus. Qui va l'aider, finalement? Un samaritain, quelqu'un de très mal vu par les juifs. Il va donner un peu de son temps et de son argent pour sauver quelqu'un dans le besoin. Et nous, dans une société où le monde avance très rapidement, tellement rapidement que nous n'avons pas le temps de faire ce que nous voulions faire en une journée. Sommes-nous prêts à bousculer nos emplois du temps pour aider notre prochain? Ellen White, dans son livre « Message à la jeunesse », au chapitre 60, nous dit « Ne sous-estimez pas l'importance des petites choses. Ce sont elles qui forment l'âme, soit à l'image du Christ, soit à l'image du mal. » Enfin, être la lumière du monde et s'oublier soi-même nous permet de devenir des témoins vivants de l'amour de Christ. Nous mettons en pratique son enseignement qui se trouve dans Luc, chapitre 10, le verset 27. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Nous ne pouvons être la lumière du monde qu'en ayant Dieu dans notre vie et qu'en vivant des expériences de foi avec lui. C'est ainsi que nous témoignerons auprès des personnes qui nous entourent de tout ce que fait Dieu dans notre vie. Comme le dit Ellen White, toujours dans Message à la jeunesse au chapitre 60, un cœur en qui le Christ habite par la foi ne peut garder le silence. Quiconque a trouvé Jésus devient un véritable missionnaire. Vous devez vous montrer enthousiaste. Faites savoir à ceux qui n'apprécient pas Jésus combien il vous est devenu précieux. Si nous nous disons chrétiens, nous avons tous un rôle à jouer dans le monde dans lequel nous sommes. Si nous voulons être la lumière du monde, nous devons avoir Dieu dans notre vie grâce à la lecture de sa parole, à son étude et grâce à la prière ferme et constante. Nous devons nous aider les uns les autres. N'oublions pas que même les personnes les plus méchantes sur terre sont enfants de Dieu au même titre que nous. Jésus n'a-t-il pas dit au larron sur la croix qu'il aurait la vie éternelle ? Nous n'avons pas à juger leurs actes parce que seul Dieu juge, mais nous devons les aider. Avoir Dieu dans notre vie, c'est servir de témoignage pour lui dans le monde où règne le mal. Ellen White nous dit comme conseil dans Message à la jeunesse, une vie dépensée dans un travail actif pour Dieu est une vie bénie. Des quantités de personnes qui gaspillent leur temps dans des bagatelles, des regrets stériles ou d'inutiles murmures feraient une expérience totalement différente si, appréciant la lumière reçue de Dieu, elle la faisait briller sur d'autres. Souvent, on se rend malheureux par son propre égoïsme et son amour des aises. Par une activité diligente, on pourrait devenir un rayon de lumière resplendissant, montrant le chemin du ciel à ceux qui suivent la sombre route menant à la mort. Celui qui adoptera cette ligne de conduite verra son cœur rempli de paix et de joie en Jésus-Christ. Nous vivons dans le monde, mais nous devons aller à contre-courant de toutes ces pratiques. Nous ne devons pas céder aux tentations. Heureusement, Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Psaume 46, verset 2. Combattons le bon combat de la foi. Restons accrochés à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Témoignons de son amour pour nous au monde entier. Demeurons-lui fidèles dans toutes nos actions, car le Seigneur a promis que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et vous, n'avez-vous pas envie de goûter à cette vie éternelle avec notre Dieu ?
J'ai failli lâcher. J'étais au bord du gouffre, mais personne n'a rien vu. Les problèmes m'enchaînaient et les dépressions m'accablaient, mais Dieu m'a tenu. Et je suis encore là, sa grâce m'a tenu. Et je suis encore là, j'ai failli lâcher. J'étais au bord du gouffre, mais personne n'a rien vu. Le diable m'enchaînait, mais Jésus est venu et il m'a tenu, et je suis encore là.